Bonsoir à tous et bienvenue sur la dernière radio libre de francophonie. Hallo und willkommen beim letzten französischsprachigen Radio Sender heute. Aujourd'hui, l'apocalypse avec toi, je te passe le son de la fin du monde. Tu avais aimé la Première Guerre mondiale ? Attends donc de voir la saison 2. Massacre de masse, extermination, déportation, j'en passe et des meilleurs. Amateurs de sang et de larmes, vous allez être servis. La Seconde Guerre mondiale, c'est le must en matière d'abomination. Et pourtant, cette période est rythmée par une musique au tempo rapide, colorée de cuivre, que les radios crachent alors que tout autour de toi s'effondre. Le monde que tu as connu, celui qui t'avait rendu heureux, tout l'optimisme de l'ère industrielle, tout ça s'est arrêté aux portes des chambres à gaz. Oui, ce soir, tu l'as bien compris, je vais te parler des plus douloureuses années de notre existence. Une décennie qu'on appelle année 40 et qui est paradoxalement rythmée par le swing. Une musique électrique, joyeuse, inconsciente et possédée. Bref, une musique de fou qui jure avec la sombre dépression qui fait frissonner l'Europe. Nul besoin d'être un historien pour se rendre compte que les années 40, c'était pas la joie. Une crise économique a paralysé le monde en 1929, propulsant les peuples dans un grand désir de renouveau. Et cette nouveauté est toute trouvée, on l'appelle fascisme, une idéologie à l'emporte-pièce qui se vend comme des petits pains. En Italie d'abord, puis en Espagne, jusqu'à toucher les champions toutes catégories, ceux qui donneront au fascisme ses lettres de noblesse, c'est bien entendu l'Allemagne. Si t'es pas fasciste dans les années 30, tu as raté ta vie. Car le propre de cette époque, c'est justement la haine, la violence, la tyrannie, l'oppression, la discrimination. Ceux qui vont à l'encontre de ça sont vus comme des has-been. D'ailleurs, personne ne pourra empêcher la guerre imposée par ce fascisme en phase terminale. Mais si le fascisme vous donne mal à la tête, il existe cependant une solution, un médicament venu de l'Ouest, une effervescence importée d'Amérique, le swing. Dans les années 20, toute l'Europe est déjà fan de cette musique américaine, qui se diffuse à partir des postes radio. Dans les démocraties libérales comme dans les dictatures fascistes, tout le monde écoute cette musique dansante qui se veut être la bande originale de cette période complètement malsaine. Laisse-moi donc t'emmener suivre les tribulations de la musique swing au pays des chemises brunes, Nacht Express, Nacht Berlin. C'est parti, mais avant d'arriver à Berlin, je dois d'abord vous expliquer en quelques mots c'est quoi le swing. C'est la plus blanche des musiques noires. Un tigre qui rugit, une voiture qui klaxonne, de la cocaïne sur les ondes, voilà comment on pourrait décrire cette musique swing qui va pousser le monde dans la folie. Alors que les canons s'apprêtent à tout faire péter, que le pognon vient à manquer, que la mort rôde dans les actualités et que ta planète est en feu, alors que tout ça tourne autour de toi, c'est le swing qui fait consensus. Au Japon, en Allemagne, en Italie, en Angleterre, en France, pas un pays de cette planète n'échappe à ce balancement importé d'Amérique. L'idée n'est pas de revenir ici sur la naissance du swing, il nous faudrait pour ça plusieurs heures d'émission. Non, ce qui nous intéresse, c'est son adaptation en Europe, comment ce délire cuivré s'est imposé au pays de l'accordéon, au point de le remplacer complètement. Retenez que le swing, c'est deux choses. D'abord, c'est un élément constitutif du jazz. Difficile de le définir sans risquer d'en manquer, c'est un peu comme l'humour. Louis Armstrong, quand on lui demandait « qu'est-ce que le swing ?», vous répondait « ah mais ça, ma petite dame, si vous ne voyez pas ce que c'est que le swing, vous ne le saurez jamais ». Car le swing, c'est avant tout quelque chose qui s'éprouve. Un balancement, une syncope, qui permet l'imagination. Elle réjouit les dépressifs et fait danser les suicidaires. C'est de l'amphétamine crachée par des trompettes. Pas étonnant donc qu'elle soit la bande originale de cette génération triste, contemporaine des exterminations de masse et de la guerre à outrance. Mais pour comprendre ce qu'est le swing, je vous propose une petite expérience. Rendez-vous dans une gare avec un disque de Benny Goodman dans les oreilles et observez le spectacle qui se déroule devant vous. Des gens allant et venant, des corps désarticulés, mus par la seule énergie de leur déplacement. Un tic-tac effréné à l'image des horloges devenues folles, de ces journées de 24 heures qui paraissent trop courtes. Se lever, marcher, courir pour aller là où tu dois être sans savoir si ça a un sens de te déplacer. Si tu t'arrêtes, tu meurs. Voie 4, le train vomit ses passagers, il court sous terre, il cherche le métro ou se jette dans des taxis qui stationnent dans un nuage de fumée noire. Vite, changement voie 9, ce qui réunit cette foule d'anonymes, c'est le visage gris, le regard vide, ce pas saccadé, ce rythme affolant. Tu hurles dans un téléphone pour t'épargner le temps d'une rencontre, tu avales un mauvais repas pour te charger de calories. Ébloui par les enseignes publicitaires et abruti par le bruit, l'électricité, les ondes, la vitesse sont devenues des excroissances de toi-même. Eh bien le swing c'est un peu tout ça. Le dernier shot d'adrénaline avant l'épuisement, le dernier bruit avant la surdité, l'ivresse de la modernité mise en musique, un peu comme le surréalisme pour les arts visuels, pousser la frontière de l'audible jusqu'à tordre le temps et provoquer cette danse avec la mort, ce balancement, le swing. Voilà, je ne pense pas pouvoir faire d'introduction plus précise sur cette musique qui incarne l'ère industrielle en déclin. Comme je l'ai déjà dit, le swing, ça s'éprouve, ça se subit. Alors, partons désormais écouter le son de l'Apocalypse, au pays des bottes en cuir et des chemises brunes. En Allemagne donc, et attention, pas n'importe laquelle, l'Allemagne du caporal Hitler. Montez dans notre Volkswagen flambant neuve et filons en direction de Berlin. La route est dégagée et pour cause, on roule un peu à contre-courant. Beaucoup d'Allemands fuient le pays pour se rendre à Paris ou aux États-Unis. Ils n'ont sans doute pas entendu le ministre anglais Chamberlain qui disait, pas plus tard que la semaine passée, « La paix avec Monsieur Hitler est préservée ». Vous passez la frontière, montrez votre Ausweis, bienvenue dans l'Allemagne des années 30. Une Allemagne qui vous paraît presque sympathique. Ici, l'industrie tourne à plein régime. Partout des ouvriers sont dans des chantiers, partout des soldats sont au garde à vous. Beaucoup de drapeaux avec des symboles bizarres. Pour celles et ceux ayant connu l'Allemagne des années 20, le progrès est faramineux. Jamais nation ne s'était reconstruite aussi vite. En Europe, on parle même du miracle allemand. Mais ne vous méprenez pas, derrière cette image d'Épinal, la réalité est bien plus sombre. Pas besoin de rappeler que les nazis, c'est un peu les méchants de l'histoire. Un régime de voyous porté au pouvoir par des salopards, convaincus qu'ils allaient changer quoi que ce soit. Ils ont en effet tout changé, en pire. Ça avait commencé par des tentatives de harcèlement, des lois discriminantes, un appel au boycott de tout ce qui concernait les juifs, mais quand ils ont vu que ça ne marchait pas très bien, ils sont passés à la vitesse supérieure, destruction des synagogues, incendie des magasins, puis finalement déportation, et hélas, extermination. En 1938, ce sont plus de 120 000 juifs qui quittent le pays, la plupart iront en France, convaincus qu'ils y seraient sauvés. Hélas, ils se sont aussi trompés. Mais rassurez-vous, les juifs ne furent pas les seuls, les nazis ont usé des mêmes stratagèmes avec les communistes, les homosexuels et les personnes handicapées, qui furent d'ailleurs les premières à être exterminées par leurs soins. La purge du handicap ayant influencé celle des juifs. Niveau musique, c'est pas vraiment mieux. Dès 1933, le parti nazi crée la Reichsmusikkammer, la chambre de musique du Reich. Un organe chargé du contrôle de la vie musicale, son objectif, proposer aux Allemands une musique propre, sans la dégénérescence juive, communiste ou homosexuelle, bref, une musique nazi-friendly, en phase avec la ligne du parti. Ce même parti qui avait banni toute musique noire, considérée comme de l'Entartete-Musik, de la musique dégénérée. Imaginez, une musique noire dont les plus grands chefs sont juifs, le swing fut donc aussi interdit. Swing tanzen verboten. J'aurais aimé vous emmener dans un cabaret pour écouter du swing, mais aujourd'hui, depuis que le parti nazi est au pouvoir, cette culture est interdite. On voit apparaître aux côtés des panneaux juifs interdits, des swing tanzen verboten, ici, danser le swing est interdit. En réaction, des groupes de jeunes amateurs de swing sont créés dès 1939. Ils s'appellent les Swing Jugend, les jeunesses swing, en réaction au Hitler Jugend, les jeunesses hitlériennes. Ils apparaissent à Hambourg d'abord et dans toute l'Allemagne ensuite. Ils entendent braver l'interdiction en organisant des soirées privées ou écouter du swing. On reconnaissait les Swing Jugend à leur style, longs manteaux, longs cheveux, les femmes sont très maquillées en réaction au style naturel et sans artifice imposé par les nazis. Et quant aux garçons, ils ont toujours un parapluie sous le bras, parce que le parapluie, c'est classe. Tous ces gens se retrouvaient dans la fascination pour la culture américaine, les démocraties libérales, une sorte de nihilisme politique. Ils détestaient la politique partisane, vivaient de danse et d'amour libre. C'était un peu des hippies avant l'heure, mais qui écoutaient du jazz dans les années 40. Et pour entrer dans ces soirées très sélectes où l'on joue cette musique interdite, il fallait un code. Ce code, c'était Swing Heil, comme une provocation envers les nazis, la guerre était déclarée. Encore une fois, c'est malheureusement une histoire qui finit mal, les jeunesses swing seront traquées, harcelées, puis battues, assassinées et enfin déportées. À la tête de la Reichsmusikkammer, Joseph Goebbels entend écraser le swing dans le sang car il déteste cette musique. Et ce n'est pas le seul, Himmler et Göring partageaient aussi ce dégoût. Quant au Führer, eh bien, il appréciait le swing mais à demi-mot. De quoi rappeler qu'à l'origine, Hitler était fasciné de culture américaine. Ben oui, le Lebensraum, cet espace vital qu'Hitler voulait créer pour le peuple allemand, prend son origine dans la destinée manifeste de l'Ouest américain. Une terre pure, nouvelle, qu'il voulait imposer en Europe. Et puis Hitler trouvait aussi que le système de ségrégation américain était efficace, ce système qui inspira les premiers camps de concentration transformés ensuite en usines de la mort. Enfin, Hitler était aussi fasciné par l'industrie américaine. Il adorait Ford, qui fut une inspiration pour sa Volkswagen, cette voiture du peuple. Hitler aime aussi beaucoup Disney, et les codes du cinéma américain transpirent dans la production allemande. C'est donc par toutes ces similitudes culturelles que le swing s'imposa, malgré tout. Et c'est pourquoi je vous passe en face à l'orchestre de Michael Jarry, un compositeur polonais qui apporta le swing en Allemagne. Goebbels considérait sa musique comme, je cite, « de la diarrhée judéo-bolchévique ». Alors écoutons cette pépite de 1943, pendant que le général Paulus capitule à Stalingrad, l'Allemagne danse sur ça. « Es hat keine Zweck mit der Liebe », ça ne sert à rien d'aimer, car s'il n'y a plus d'amour, alors le bruit des bottes paraît moins grave. Evelyn Künneke sur un orchestre de Michael Jarry, « Es hat keine Zweck mit der Liebe » en 1943.
Keinen Zweck mit der Liebe. Ich falle ja doch immer rein, weil ich mich so schrecklich verliebe. So soll man zu Männern nicht sein. Und wenn es dann aus ist, das fass ich nicht. Und trotzdem, das lass ich nicht. Mal hat es doch weg mit der Liebe. Einmal kommt das Glück sicherlich. Nun gerade, und einmal liebt einer auch mich. Und einem viel zu brüde, einem bin ich viel zu keck und einem zu solide. Ich stell mich auf viele ein in meinem Lebenslauf, doch keinem mache ich es recht, ich glaub, ich geb es auf. Es hat keinen Zweck mit der Liebe.
On se retrouve désormais à Berlin, l'œil du cyclone de cet empire nazi qui semble être parti pour régner 1000 ans. Comme vous l'avez entendu dans le disque qui vient de passer, malgré les interdictions du parti, il est encore possible de trouver des disques de musique swing. Ce qui est interdit, c'est la danse et certains artistes, s'ils sont trop modernes, trop gauchistes, trop homosexuels, trop noirs ou trop juifs. Il n'empêche, certains artistes allemands ont apporté le swing dans leurs compositions, car comment interdire une manière de battre du tambour ou de diriger ses cuivres ? C'est pourquoi le disque de Michael Jarry réussissait à passer sous les radars en alternant des instruments de folklore comme l'accordéon ou en reprenant des airs de foxtrot plus lents que le swing qui, lui, était autorisé. Mais comment fait-on pour écouter de la musique en Allemagne dans les années 30 ? Eh bien, comme un peu partout dans le monde, on achète des disques et on écoute la radio. À l'époque, pas encore de plateforme numérique, on écoute de la musique sur des 78 tours, des disques durs comme de la pierre et qu'on doit lire sur un gramophone, reconnu par son large pavillon conique en toile. Le bon vieux vinyle 33 tours tel qu'on le connaît ne remplacera le 78 tours qu'après la guerre. Les années 30, c'est donc la dernière génération à connaître le gramophone. Depuis les pionniers, la technologie n'a pas beaucoup évolué. À ceci près que l'amplification électrique se généralise vers 1927, le gramophone va donc pouvoir sortir des sons plus puissants, plus électriques aussi, et ça, c'est ce qui va jeter la musique populaire dans cette surenchère de bruit et de vitesse. Vous comprenez désormais pourquoi le swing n'arrive qu'après l'amplification des gramophones. Mais le disque est au final assez peu pratique. Le 78 tours est très fragile, si vous le laissez tomber, il se casse comme de la porcelaine. Et bien que son prix se soit démocratisé, le gramophone reste un objet coûteux, surtout pour le niveau de vie moyen des Allemands. Non, le moyen le plus pratique pour consommer de la musique, ça reste la radio. Je vous ai déjà beaucoup parlé de la radio dans notre série sur la musique country, mais en Allemagne, c'est un peu différent. Car dès l'arrivée au pouvoir des nazis, Joseph Goebbels souhaite fournir un poste radio à chaque foyer allemand. Il l'appelle le Volksempfänger, le récepteur radio du peuple, qu'il va faire produire en masse. Cette radio se vendait 76 Reichsmark, soit l'équivalent de 2 semaines de loyer. Pour l'époque, ce n'est donc pas trop cher. Tenez-vous bien, on pouvait même acheter sa radio à crédit. Le parti nazi avait très bien compris l'importance de connecter le peuple avec le pouvoir. C'est pourquoi, en plus du Volksempfänger, ils avaient toute une série de produits qu'ils voulaient distribuer aux Allemands. Réfrigérateurs, maisons préconstruites, ils avaient même essayé de produire des téléviseurs. Mais le plus connu de ces projets, c'est évidemment la Volkswagen, la voiture du peuple. Alors spoiler, tous les Allemands n'ont pas eu leur voiture, c'était une vaste entreprise de propagande. En revanche, les nazis ont pu mettre sur le marché le Postradio, le Volksempfänger. Et en effet, c'est plus de 60% de la population allemande qui possède un Postradio dans les années 30. En quelque sorte, c'est donc toute l'Allemagne qui a l'oreille pendue aux lèvres de Joseph Goebbels. Le 1er septembre 1939, le même jour où la Wehrmacht envahit la Pologne et précipite le monde dans la guerre, Goebbels proclame l'interdiction d'écouter les radios étrangères. À partir de ce moment, plus moyen d'écouter du swing, même à la radio. Et les nazis n'y vont pas avec le dos de la cuillère, puisqu'ils envoient en déportation toute personne qui branche son Volksempfänger vers l'étranger. L'objectif est évidemment de verrouiller l'interprétation de l'actualité, mais surtout d'empêcher la BBC, cette radio britannique, d'influencer le public allemand. Car il est vrai que la BBC avait largement contribué à l'effort de guerre allié, en proposant des émissions qui étaient écoutées dans toute l'Europe envahie. L'appel du 18 juin 40 par le général de Gaulle avait, par exemple, été diffusé par la BBC. Les Britanniques entendaient bien mener une véritable guerre des ondes avec l'Allemagne, mais cela ne signifie pas que les nazis ne faisaient pas pareil. Joseph Goebbels lance dès 1939 la radio Europa Sender, dont l'émetteur est installé à Bremen. Adolf Hitler avait demandé au Gauleiter Goebbels, je cite, « une radio allemande, internationale et anglophone, une radio qui proposerait de la musique appréciée par les Anglais, afin qu'ils soient de plus en plus habitués à se brancher sur les radios allemandes plutôt que britanniques ». Le message du Führer est entendu, et Goebbels, bien qu'il déteste le swing, va mettre sur pied un groupe, le Charlie Hannes Orchestra, pour composer et diffuser de la musique swing sur les ondes anglaises. Cette émission s'appelle Germany Calling, elle diffuse à partir de Bremen de la musique 100% anglophile, entrecoupée d'actualités et de messages politiques, pour décourager les alliés et les zones occupées. La voix de cette émission, c'est un militant fasciste britannique, William Joyce, connu sous le sobriquet de Lord Howe Howe. A l'époque, la Grande-Bretagne mettait ses fascistes en prison, alors Joyce quitte l'Angleterre pour trouver l'asile politique en Allemagne. Il se débrouille cependant, se fait quelques relations sur place et, comme il parle bien l'anglais, c'est finalement lui qui devient le présentateur attitré de Germany Calling. Il commençait toujours ses émissions en répétant 3 fois Germany Calling avant de se lancer dans des discours minutieusement écrits pour décourager les populations alliées. Il n'en manquait pas une pour critiquer les Juifs, Winston Churchill ou les forces françaises libres. Et aussi étonnant que cela puisse être, cette radio a connu un franc succès outre-Manche. En effet, c'est plus d'un Anglais sur 5 qui écoute régulièrement les émissions de la radio nazie. Churchill disait même qu'il appréciait ces émissions, du moins il les trouvait efficaces car divertissantes, et c'est bien là le cœur de la propagande nazie, elle proposait toujours des produits culturels divertissants pour endormir les masses. Mais pourquoi allez-vous me dire des Anglais écoutaient de la propagande nazie au beau milieu de la guerre ? Eh bien déjà, comme on l'a vu, les nazis proposaient une musique swing à laquelle les Britanniques étaient déjà habitués. Ils n'étaient pas décontenancés par le son, ils appréciaient cette musique et pouvaient donc tomber sur Germany Calling sans vraiment le savoir. Mais c'est surtout parce que cette radio diffusait aussi les messages des prisonniers détenus en Allemagne. C'est donc beaucoup de gens, britanniques avant tout, mais aussi français, belges ou américains, qui écoutaient cette radio pour avoir des nouvelles de leurs proches, leur père, leur frère ou leur mari, faits prisonniers au combat ou Plus tristement encore, des exilés qui espéraient entendre de bonnes nouvelles de leurs familles déportées en Allemagne. Et c'est pour partager ce chagrin d'apocalypse que je vous passe une chanson de Charlie and His Orchestra en face B de cette émission. Par empathie pour tous ces gens qui ont subi la douleur de la disparition. Comme un hommage pour cet auditeur qui attend devant sa radio pour entendre la voix de l'être aimé, était-ce l'espoir ou le désespoir qui faisait tenir ces gens? En attendant, c'était cette chanson qui passait. La chanson s'appelle « I Double Dare You », elle est sortie la même année que le débarquement de Normandie, en 44. Dans les bureaux de Goebbels, c'est donc un peu la panique. Il faut une chanson pour empêcher ça. « I Double Dare You » sera cette chanson-là. Le narrateur envoie un message à Mademoiselle La France, un message directement adressé à la Résistance et au général de Gaulle. Le nazi dit « Je vous mets au défi de venir jusqu'ici et de nous envahir ». On raconte que quand Staline a entendu ce message, il aurait répondu « Pari tenu, camarade ».
Listen to Mademoiselle La France, I double dare you to come over here. I double dare you to venture too near. Take off your high hat and quit that bragging. Turn up the claptrap and keep your hair on. Can't you take a dare on? I double dare you to venture a raid. I double dare you to try and invade. And if your loud propaganda means half what it says, I double dare you to come over to me. I double dare you.
Février 1943, le palais des sports de Berlin est rempli de 14 000 personnes en délire. Goebbels y prononce le plus terrifiant discours de l'histoire. Je cite « Voulez-vous la guerre totale? Voulez-vous une guerre plus totale et plus radicale encore comme jamais ça ne l'a été ?» Et toute la foule avait répondu « Oui ». Oui, 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 nous voulons la guerre totale. Le discours du Palais des Sports de Berlin est enregistré, filmé et diffusé sur toutes les radios allemandes. On le projette dans les cinémas. On donnait même en rue une version imprimée du discours. 14 millions d'exemplaires furent distribués. On est alors au pinacle de la folie nazie. Goebbels prononce son discours sur un ton saccadé, dur, énergique. On dirait un automate chargé d'électricité et la foule devant lui est intenable. Les gens crient, s'agitent, font des malaises. Le soir même, Goebbels confesse « J'aurais pu leur demander de se jeter du haut d'un building, ils l'auraient fait ». Mais comment en est-on arrivé là? Ce que Goebbels souhaite cacher avec ce discours, c'est que pour l'Allemagne, les choses vont mal. La Wehrmacht est en déroute sur le front de l'Est, l'Italie chancelle et l'oncle américain s'apprête à entrer dans la danse. Ce qu'il faut, c'est donc la guerre totale, l'assentiment du peuple pour commettre tous les massacres et beaucoup, beaucoup de canons. De quoi rappeler la bonne volonté des industriels pour le projet nazi. Krupp, les armuriers évidemment, avaient répondu présent, mais la liste des entreprises ayant collaboré avec le régime est longue. Les confiseurs Balzen, les constructeurs Audi, Porsche, BMW, General Motors, Ford, les entreprises Siemens, AEG, le couturier Hugo Boss, les scientifiques de chez Bayer évidemment, mais aussi les informaticiens d'IBM qui avaient construit un prototype d'ordinateur pour organiser la solution finale. C'est d'ailleurs pour ça qu'on tatoue les détenus dans les camps de concentration. C'était leur numéro d'identification dans les ordinateurs d'IBM. Et enfin, que serait le parti nazi sans les banquiers de la Deutsche Bank qui avaient bien gentiment prêté l'argent pour construire Auschwitz? Même Coca-Cola avait sorti un soda nazi à base de lactosérum et de pommes pressées, une boisson que les soldats allemands appelaient Fanta. Quand je vous disais que l'Allemagne nazie était pétrie d'américanisme, c'était donc vrai. Et ça ne s'arrête pas là, niveau social, le régime nazi s'avère être aussi un capitalisme de la séduction. Les salariés travaillent 8 heures légales, mais le système permet de travailler plus pour gagner plus. Ce qui compense le maigre salaire minimum, toujours pas indexé depuis la crise de 1929. Et puis, il y a beaucoup de compensations que l'agence peut octroyer à ses employés qui se voient offrir un cadeau pour leur anniversaire, mais aussi pour les fêtes nationales ou simplement si on a bien travaillé. Le cadeau pouvait être une photo dédicacée d'Himmler, une jolie montre, une peinture volée je ne sais où, ou mieux, une croisière sur le Wilhelm Gustloff, un rutilant paquebot qui vous emmenait au large de la Norvège. Et non, ce n'est pas une blague, chez les nazis, tout le monde se fait des cadeaux. Il y avait même une agence spécialisée pour la gestion de listes d'anniversaires. Mais ne vous trompez pas, ce n'est pas par bonté d'âme que les nazis se font des cadeaux, c'est un système de dépendance affective particulièrement pervers puisqu'il a été étudié pour ça. En allemand, on dit Kraft durch Freude, la force à travers la joie. Le nazisme fonde sa stabilité et son efficacité sur le bonheur individuel des gens, un bonheur comblé par une abondance matérielle, fruit de leur pillage dans toute l'Europe. C'est d'ailleurs un système managérial tellement efficace qu'il est aujourd'hui utilisé dans toutes les entreprises qui se respectent. Dans les brasseries berlinoises des années 30, on écrivait votre prénom sur le verre de bière, si vous voyez ce que je veux dire. Une sympathie raciale qui n'élimine pourtant pas les différences de classe. Et c'est pour ça que ça a pu marcher et durer dans le temps. Ce système était participatif, il fonctionnait sur la bonne volonté des gens, mise au service d'une idéologie, que l'on devait embrasser avec fanatisme, sinon rien. Au final, le spectacle politique donné par Goebbels au Palais des Sports de Berlin, aussi effrayant qu'il soit, partage un même fanatisme qu'avaient les Swingjugend pour le jazz. Le rythme, la mise en scène, mais aussi le bruit, la mécanique et l'extase du public sont sensiblement les mêmes dans des concerts de swing endiablés ou dans les grandes réunions fascistes. Non pas que ce soit la même chose, non, évidemment pas, mais ils partagent un même excès, l'excès de modernité, d'industrie et de vitesse qui a frappé cette génération. Car c'est justement ce que cette génération a inventé, le fanatisme. Un spectacle où les émotions sont amplifiées par l'électricité et transportées dans le monde entier par ondes radio. D'ailleurs, ne dit-on pas qu'on est fan d'un artiste, fanatique, comme ces foules au bord du malaise qu'on retrouve dans le rock'n'roll avec les Beatles, mais qui avaient commencé avec le swing quand la jeunesse se jetait aux pieds des trompettistes ou que la foule cassait des chaises dans un élan d'extase. C'est presque à en oublier que la musique et le politique partagent plusieurs points communs. S'ils se consomment comme des divertissements, ils doivent être avant tout appréhendés comme des objets de méditation. Car si un discours doit être écouté plutôt qu'entendu, il en est de même pour un disque de jazz. Le swing a été un bouleversement, dans la sensation, dans les usages, dans la manière même de concevoir la musique, et tout ça avec l'apocalypse en toile de fond. Jamais plus la musique ne sera la même, le swing c'est un peu le big bang d'un monde sonore à venir, fait d'électricité, de vitesse, de contretemps, de bruit amplifié, et cette fuite en avant que tu pensais presque terminée ne fait en réalité que de commencer. Moi je vous laisse là-dessus car j'entends sur mon Volksempfänger que les Russes sont entrés dans la ville, alors il faut que je file à l'anglaise et si j'ai le temps d'envoyer une capsule de cyanure dans le temps, j'écrirai dessus « Swing Heil », c'était marrant, mais rappelez-vous qu'une fois, ça nous a suffi. Merci de votre haute fidélité. Auf Wiederhören, lieben Kameraden. À très bientôt. Tschüss.
Ich brauche keine Millionen, mir fehlt kein Pfennig zum Glück. Ich brauche weiter nichts als nur Musik, Musik, Musik. Ich brauche kein Schloss um zu wohnen, kein Auto funkeln und schick. Ich brauche weiter nichts als nur Musik, Musik, Musik. Doch eine ganze Kleinigkeit, die brauch ich noch dazu. Und diese große Kleinigkeit bist du. Nur du, nur du, 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 du. Ich brauche keine Millionen, mir fehlt kein Pfennig zum Glück. Ich brauch nur deine Liebe und Musik, Musik, Musik. Thank you.
Musik.